Interview.
2 jours.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis sur Air d'Ivoire sur 107.5 FM et sur www.rdwr.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Jean-Louis Mancipe, éleveur et vice-président de la FDO, la Fédération départementale ovine, éleveur dans le Diois, devrais-je préciser, et Claire Chuillon, animatrice salariée de cette même FDO. Ils sont venus à notre invitation parce que Air d'Ivoire avait travaillé lors de la fête de la transhumance de cette année et nous avions souhaité à l'époque faire une réunion bilan. Alors d'autres acteurs de cette édition de la transhumance n'avaient pas pu ou voulu s'exprimer lors de cette réunion bilan. Seule la FDO l'a souhaité et donc ils se retrouvent seuls. Et donc on va changer de sujet, on va faire un sujet sur la FDO. Qu'est-ce que la FDO ? Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Louis.
Alors, qu'est-ce que la FDO, à quoi elle sert ? Facile.
Eh bien, la Fédération départementale ovine, c'est un syndicat d'éleveurs ovins qui regroupe donc des syndicats locaux du Vercors, des Baronnies, du Diois et quelques autres. Donc, cette fédération départementale est là pour les fédérer et les organiser et se trouve être la courroie de transmission avec la FRORA, la Fédération régionale ovine de la région Rhône-Alpes, et également la FNO, la Fédération nationale ovine, donc qui est l'interlocuteur national des différents partenaires que sont l'État et les différentes collectivités. Donc sur un plan régional, la FRORA a comme partenaire évidemment l'administration sur un plan régional et puis le conseil régional. Et quant à nous, FDO, eh bien, on est la courroie de transmission entre ces syndicats locaux, ces éleveurs et les interlocuteurs que l'on peut avoir sur le département au travers de la DDT, donc l'administration qui gère l'agriculture, du préfet, du sous-préfet et bien entendu la collectivité donc qui est le conseil général. Donc voilà, donc cette fédération départementale ovine a pour mission donc la défense des éleveurs. Elle a pour principe d'essayer sur des grands sujets d'être un petit peu le corps intermédiaire qui permet de faire avancer les problèmes des éleveurs, et il manque pas, on pourra les lister, et elle s'emploie dans la mesure de ses moyens à faire en sorte que notre filière puisse rester dynamique sur notre territoire, et ce qui est pas forcément toujours facile. Donc pour ce faire, elle a fait le choix il y a déjà quelques années d'avoir un salarié à temps plein pour mener au mieux les différents sujets qui sont au quotidien le travail de la fédération. Donc c'est effectivement aujourd'hui Claire Chuillon qui est en charge donc l'animation de cette fédération et qui est aujourd'hui donc à mes côtés pour contribuer à communiquer un petit peu sur nos missions, notre travail et faire en sorte que tous nos concitoyens connaissent un petit peu mieux la façon de fonctionner des agriculteurs et puis la façon qu'ils peuvent avoir pour essayer de s'organiser, de se fédérer pour essayer de faire avancer les différents sujets.
Alors Claire, justement, ce serait très indiqué de nous raconter un petit peu en quoi consiste ton boulot, qu'est-ce que tu fais pendant ces 12 mois, en 11 mois, parce que je suppose que tu as des vacances pendant l'année. Qu'est-ce que tu fais au sein de la FDO ? Quelles sont tes missions ?
Alors, mes missions sont d'appliquer l'ensemble des objectifs et missions de la FDO. On en a un certain nombre qui commencent tout bête, comme l'a bien dit Jean-Louis, défendre l'intérêt des éleveurs, que ce soit à travers des dossiers au niveau départementaux ou même des dossiers qu'on peut amener au niveau régional et national. Ça peut être également des dossiers qui sont plus personnels, qui concernent un éleveur en particulier, qui a quelques soucis.
Ça arrive souvent, ça, des éleveurs qui ont des soucis ? Et vis-à-vis de quoi ils ont des soucis ?
Ça arrive, c'est pas si courant, mais on peut en avoir... Bon, allez, ça se compte sur le doigt d'une main sur une année. Ça peut être des soucis lors de contrôles sur la réglementation qu'ils doivent respecter dans leur ferme, où ils contestent les résultats. Ou alors, ça peut être des conflits de voisinage, par exemple, à cause de la présence de leur patou pendant l'hiver dans leur bergerie, qui pourrait causer soucis avec des voisins. Ou après, ça peut être des gens qui ont besoin de mon conseil sur de la réglementation, ou sur du technique, ou tout simplement sur de la communication. C'est pas forcément des gens non plus qui sont là pour aller, ils viennent aussi des fois pour communiquer et pour prendre des renseignements. Voilà, donc je suis à leur disposition à tout moment pour pouvoir leur donner ces informations-là. Donc effectivement, ça m'amène à parler de la mission de l'information et de la formation des éleveurs, que ce soit sur le plan réglementaire ou technique, même si c'est peut-être pas moi la plus adepte, parce qu'il y a la Chambre d'agriculture qui est là pour ça. Je peux néanmoins les aiguiller ou donner quelques conseils à la mesure de mes moyens. Voilà, donc ça se traduit notamment par un bulletin trimestriel que j'édite, ou des formations qu'on peut organiser en partenariat avec la Chambre ou tout autre organisme formateur, comme le GDS notamment pour le sanitaire. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est défendre les éleveurs. Après, voilà, on a un certain nombre de services aux adhérents qui sont par exemple la collecte de la laine. On organise une collecte de la laine chaque année. Je peux venir les aider pour remplir leur dossier de demande d'aide PAC ou remplir d'autres dossiers. On propose aussi une assurance collective pour les dégâts de chiens errants. Voilà pour tout ce qui est service aux adhérents. Puis on a un gros volet également communication, notamment à travers la fête de la transhumance ou alors pour le syndicat au vin du Diwa, l'organisation du concours de chiens de berger. On participe également à l'ensemble des manifestations agricoles qui ont lieu sur le département. Donc on vient pour faire un stand, faire déguster de l'agneau et participer à la communication générale.
Alors en introduction, je disais, Jean-Louis, que tu étais éleveur. Et justement, vous êtes préposé à la défense des éleveurs et des bergers. Enfin, peut-être pas des bergers d'ailleurs, si. Des bergers, non, c'est pas votre tasse de thé.
Si, si. Les bergers sont un complément de l'activité d'élevage, puisque ça consiste à effectivement garder les animaux sur des espaces ouverts, notamment en période d'estive. Mais il y a également des bergers sur certaines exploitations qui sont là en période hivernale, notamment dans le sud du département, sur des pâturages d'hiver, tout simplement. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le Diois ou sur le Vercors, puisque les hivers sont plus rigoureux, et où effectivement les bergers sont alors plus à même à travailler en bergerie éventuellement aux côtés d'éleveurs qui ont les possibilités de les embaucher, ce qui n'est pas forcément le cas général de l'élevage dans la Drôme. Donc effectivement, la fédération ovine s'emploie à défendre au mieux les éleveurs et effectivement aussi se préoccupe de l'activité des bergers, mais pour ce faire, il y a d'autres organisations sur le département qui sont mieux à même de, par exemple, gérer tout ce qui est convention collective par rapport à l'embauche et puis qualité de vie des bergers. Mais la FDO, bien entendu, contribue à ce travail-là.
Alors, qu'en est-il justement aujourd'hui même de ce monde ovin ? On pourrait faire un petit tableau général dans la Drôme et dans le Diois. Est-ce qu'il est en bonne santé ? Bon, j'ai entendu dire, hein, tu vas peut-être nous le préciser, qu'il y avait un vieillissement des éleveurs. Est-ce que c'est des métiers qui attirent toujours ?
Certes, c'est un métier qui attire. Il y a des jeunes qui suivent des parcours de formation pour aller vers cet élevage-là. Par contre, après, le passage à l'acte et la reprise d'exploitation, eh bien, se complique parce que la réalité dure du métier est là. Et une exploitation ovine, même si au sein de l'agriculture, c'est une activité qui nécessite le moins de capitaux pour arriver à accéder au métier, c'est quand même aujourd'hui des exploitations qui sont coûteuses à reprendre, donc qui peuvent parfois freiner. Et puis c'est un métier qui effectivement, même si qui nécessite une passion, il faut pas forcément vouloir être en phase avec la société actuelle par rapport à des temps de travaux et par rapport à des périodes de vacances. Voilà, c'est il faut le vivre comme une véritable passion. Et après, effectivement, c'est un métier tout à fait intéressant, mais qui aujourd'hui est plutôt en déclin malgré tout, parce que la réalité fait que l'élevage aujourd'hui se concentre dans l'arrière-pays drômois. Il a quasiment disparu de la vallée du Rhône. Il est aujourd'hui concentré sur l'est du département, sur la zone dite de montagne. Parce que c'est une zone où l'élevage est souvent la dernière des productions, sans quoi on peut rien faire d'autre, quoi, hein, parce que chaque fois qu'il a pu être remplacé par d'autres productions, il a été remplacé. Ce qui n'est pas le cas dans le Haut-Diois, dans les Baronnies ou sur certaines communes du Vercors, parce que derrière le mouton, il n'y a plus d'autres productions possibles. Donc cet élevage ovin se concentre sur ces zones-là, et pas forcément avec des installations qui sont quand même très faibles, puisqu'on en vit deux ou trois par an sur le département. On a quand même 350 agriculteurs professionnels sur le département qui vivent en partie de l'élevage ovin. Et si on compte les trois installations que l'on a, on peut se poser des questions sur l'avenir de notre métier.
Et donc il y a un vrai vieillissement de l'âge des éleveurs en tout cas.
Oui, tout à fait. Il y a bon nombre d'agriculteurs aujourd'hui, éleveurs de moutons qui ont plus de 50 ans, voire plus de 55 ans. On parle d'une bonne moitié. Donc automatiquement, on peut se poser des questions demain sur cette production-là. Hein. On a malgré tout un bassin de consommation important, puisqu'il faut bien reconnaître que dans le département de la Drôme, voire même en Rhône-Alpes et en région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, seuls 3 agneaux sur les 10 consommés par nos concitoyens sont produits localement. Tous les autres sont importés parce qu'on a quand même un milieu de consommation important et une production qui diminue. Donc c'est des agneaux qui viennent de pays tiers et qui concurrencent indirectement notre production.
Et ils sont moins chers, donc s'ils viennent de Nouvelle-Zélande, pour ne pas la citer.
Bien sûr, ils sont moins chers parce que les conditions de production sont complètement différentes. En Nouvelle-Zélande, l'agneau est souvent considéré comme un sous-produit, sachant que l'activité principale du moutonnier en Nouvelle-Zélande, c'est la laine, et que l'agneau est récolté comme aujourd'hui, nous, on pourrait récolter un champignon, c'est-à-dire que c'est une véritable cueillette. Alors que pour nous, ici, l'agneau, c'est pas une cueillette, c'est une véritable production qui nécessite des moyens, avec des périodes d'hiver où il doit être mis en bergerie, avec du foin qui doit être stocké, du grain, et donc des travaux derrière qui sont là pour stocker ce foin, stocker ce grain, des bâtiments, donc un coût de production qui est bien plus élevé, qui fait qu'aujourd'hui, on peut pas avoir de l'agneau sans prix, quoi. Et c'est bien ça le problème. De notre côté, c'est une production qui peut pas s'intensifier, c'est-à-dire qu'une brebis fait globalement un agneau par an. On peut pas lui en faire 5 ou 6. Donc, automatiquement, on n'a pas les volumes, on n'a pas forcément des prix très élevés, ce qui fait qu'on a une production qui doit être compensée par différentes aides si on veut que demain, on puisse continuer à avoir des éleveurs. Alors c'est vrai que ces compensations sont pas très valorisantes pour un éleveur qui est technique, qui est producteur, puisqu'aujourd'hui elle rentre dans le chiffre d'affaires à hauteur de 60 voire 70%. Donc la viande représente que très peu dans le chiffre d'affaires de l'exploitation agricole. Malgré tout, c'est la seule façon pour que l'élevage ovin puisse rester sur nos zones. Sachant que ce que j'ai pas évoqué jusque-là, c'est que ces 60 ou 70% d'aides qui rentrent dans le chiffre d'affaires sont aussi faits pour rémunérer la fonction d'entretien de l'élevage ovin. La fonction première, bien entendu, c'est la fonction de production, c'est produire un agneau. Et que derrière, le pendant de cela, c'est l'entretien du territoire qui est induit par la fonction de production. Donc aujourd'hui, depuis les années 60-62, la production ovine est une production qui est compensée, qui est aidée pour arriver à faire tenir les producteurs sur leur territoire. Et ces aides n'ont fait qu'augmenter au fil des années pour, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui arriver à des niveaux importants. Alors il faut bien reconnaître que ça peut être une entrave aussi à l'installation, parce que quand on est jeune et passionné par cet élevage-là, on l'est pas forcément par les aides que ça peut induire, on est passionné par la production. Voilà.
Si je ne m'abuse, pour mériter ces aides, il faut faire un certain nombre de dossiers qui sont un peu lourds, non ?
Bien entendu, ce que Claire évoquait tout à l'heure, ça fait partie de ses missions, c'est un travail important d'aide au remplissage de ces fameux dossiers qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus lourds. Et avec des contrôles souvent stressants et pas forcément faciles à assumer correctement. C'est vrai que Claire a pour mission d'expliquer aux agriculteurs les conséquences éventuelles de ces dossiers, les choses qu'ils peuvent encourir, sachant que sur certaines exploitations, il y a des contrôles qui se passent pas forcément bien, avec des fois des contrôleurs un peu pointilleux, une administration un peu tatillonne, qui fait que la FDO a de plus en plus aussi cette mission-là, c'est d'aller aider certains agriculteurs non seulement à remplir des dossiers, mais aussi à aller les dépêtrer de l'administration par rapport à des contrôles qui se sont plus ou moins bien passés.
Alors, tu as évoqué le fait qu'en Nouvelle-Zélande, la matière première, c'était la laine. Pourquoi en France, on ne valorise pas la laine ?
Bon, là, c'est des choses qui me dépassent un petit peu, mais il faut reconnaître que tout l'aval de la filière laine, en ce qui concerne déjà son lavage et puis le filage, c'est une véritable filière qui a échappé un petit peu à la France, qui aujourd'hui se passe dans des pays où la main-d'œuvre est bien moins chère, sachant que c'était des métiers qui étaient quand même durs, et qu'en France, c'est des usines qui ont fermé. et que donc aujourd'hui on est tributaire de filatures qui se trouvent souvent dans les pays de l'Est, voire en Chine ou ailleurs, et qui fait qu'aujourd'hui la laine pour nous est une matière première qui a quasiment plus de valeur. Hein. La laine se négocie entre 50 centimes et 1,20 ou 1,30 le kilo. Donc ce qui reste marginal, sachant qu'on sait qu'une brebis en produit entre 1 et 2 kilos. Donc vous voyez le chiffre d'affaires qu'on peut tirer sur le dos d'une brebis, sachant que pour extraire cette laine, le travail de la tonte est largement supérieur au chiffre d'affaires dégagé par la laine. Enfin moi, je n'ai pas forcément la raison de la chute de ce prix, mais aujourd'hui notre laine, elle coûte en termes de transport pour l'évacuer sur des pays extérieurs, et par contre a perdu complètement de sa valeur.
Alors, une autre filière dont on n'a pas encore parlé, vous avez parlé du fait qu'on faisait de l'agneau pour l'agneau, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi la filière lait? Vous la comptez dans vos statistiques, les 65 000 brebis qu'il y a dans la Drôme? Ce n'est pas que pour la viande, il y a aussi pour le lait et le fromage.
Tout à fait, sachant que le lait de brebis dans la Drôme reste quand même une production relativement marginale. Claire, tu me corrigeras, mais je pense qu'il n'y a qu'une dizaine de producteurs dans le département, sachant qu'on est sur un département où il n'y a pas de filière dite organisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aval, il n'y a pas de coopérative, il n'y a pas de fromagerie, il n'y a pas qui collecte du lait de brebis. Donc c'est tous des agriculteurs qui vont jusqu'au bout de leur produit, c'est-à-dire qu'ils le produisent, qu'ils le transforment et qu'ils le vendent. Donc ça reste quand même limité par rapport à un marché local. On est dans un département où certes il y a une consommation de fromage de brebis, mais elle n'est pas non plus extensible. Peut-être qu'il y a encore la place pour quelques installations. Ces dernières années d'ailleurs, les quelques installations ovines qu'on a eues, elles l'ont été un petit peu en lait. Mais pour véritablement faire démarrer cette filière lait de brebis dans le département, il faudrait une filière organisée comme on peut la connaître dans d'autres régions de France, en Aveyron ou dans les Pyrénées, où là on a véritablement des fromageries, des coopératives qui derrière transforment et commercialisent à grande échelle, très largement sur le pays, voire à l'export.
On a parlé du fait que les éleveurs étaient en train de vieillir, et qu'en est-il des bergers? Parce que moi j'ai rencontré encore hier même un homme de 50 ans à peu près qui se dirigeait vers le métier de berger, donc c'est un métier qui continue à fasciner. Y a-t-il une crise de vocation dans le métier de berger?
Il y a eu une crise il y a une vingtaine d'années avec une diminution importante du nombre de bergers. Et puis, faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui rentrent en centre de formation, sachant qu'il n'y en a pas un grand nombre, il y en a quelques-uns en France, qui forment au métier de berger. Et effectivement, on a une petite reprise là de ce genre de vocation qui permet aujourd'hui, pour les éleveurs qui sont capables d'embaucher, d'avoir effectivement une offre intéressante en termes de bergers formés. Il faut reconnaître que... Alors la raison à cela, je la connais pas. Est-ce que c'est la nature et la solitude qui attire? Est-ce que c'est un métier correctement rémunéré? Parce que je pense qu'aujourd'hui, la convention collective qu'on a dans le département de la Drôme par rapport à la rémunération des bergers est quand même, à mon avis, intéressante. Enfin, on peut constater qu'effectivement, le métier de berger, même si la demande n'est pas très importante, parce que la diminution du nombre d'éleveurs fait que, inévitablement, il y a moins besoin de bergers qu'il y a 50 ou 60 ans. On peut constater malgré tout qu'aujourd'hui, il est plus facile de trouver un berger qu'il y a une vingtaine d'années.
En parlant de métier de berger et d'éleveur, il est difficile de faire abstraction d'un problème qui est de plus en plus prégnant dans le territoire, c'est la présence du loup. Quelle est la position de la FDO concernant ce loup? Vous avez une position sur ce sujet?
Oui, bien sûr, c'est un sujet qui aujourd'hui occupe la partie essentielle du temps de travail de la Fédération départementale ovine. C'est un sujet qu'on connaît dans la Drôme depuis 1996, je pense, ou 97, sachant qu'on en avait entendu parler, bien entendu, par nos collègues du Mercantour des Alpes-Maritimes dès les années 92-93, puisque les premières attaques ont eu lieu dans ces années-là en France. Donc en démarrant dans le Mercantour, rapidement la Drôme a été victime donc du loup. Et donc ça fait une bonne quinzaine d'années que à la Fédération départementale ovine, en fonction des années, plus ou moins, mais que ce sujet est bien entendu évoqué régulièrement au sein du conseil d'administration, au sein du bureau, que le président, que l'on peut saluer, Didier Bénet, en l'occurrence, qui est éleveur à Saint-Nazaire-le-Désert, au quotidien répond à des appels téléphoniques, à des demandes pressantes d'éleveurs qui sont victimes et qui sont au bout du rouleau par rapport à ce problème-là. Et effectivement, Claire est très souvent sollicitée, donc c'est des réunions en préfecture, en sous-préfecture, notamment à Die, parce qu'on a depuis quelques années des sous-préfets qui sont largement sensibilisés à cette problématique. Donc c'est des demandes incessantes de l'administration, d'éleveurs, qui font que le loup, évidemment, est au quotidien dans les sujets de discussion de la Fédération départementale ovine, sachant que, bien entendu, la Fédération départementale ovine a une position très tranchée sur le sujet, qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais qui dit en gros qu'on ne peut pas avoir de compatibilité entre la présence du loup sur nos territoires et la présence de l'élevage. Donc il faut être capable de choisir. Et aujourd'hui, on est dans un pays qui a effectivement signé une convention de Berne dans les années 92, en la personne de M. Barnier, qui protège de façon très stricte le loup en Europe. Donc on est victime de cette convention, et aujourd'hui on n'a pas de volonté politique au niveau de l'État français ou au niveau de l'Europe de remettre en cause cette convention. Donc on va de mesurette en mesurette, d'année en année, mais globalement, on ne règle pas le problème. Donc, la conséquence de ça, c'est tout doucement la disparition de l'élevage. C'est un loup qui colonise maintenant l'ensemble du département de la Drôme, puisqu'il a traversé le Rhône, qu'il est allé en Ardèche, et puis qu'on le retrouve dans le Massif central. Donc aujourd'hui, l'ensemble du département de la Drôme est touché. Donc c'est globalement des exploitations qui sont victimes d'attaques régulières et qui, du coup, se démotive par rapport à un élevage ovin qui, certes, n'est pas très rémunérateur, qui, certes, économiquement est difficile et qui nécessite une présence, un temps de travail lourd. Donc le loup, par là-dessus, contribue à démotiver certains éleveurs et n'encourage surtout pas certains jeunes à aller vers ce métier-là. C'est une véritable calamité, on ne peut pas le dire autrement. Tant que demain on n'aura pas un courage politique pour remettre l'élevage sur nos territoires et prélever les loups, j'irais même jusqu'à dire les éradiquer, puisque la seule solution pour avoir un élevage dynamique sur notre territoire, c'est l'absence de prédateurs, donc c'est l'éradication du loup pour ce qui concerne la Drôme ou de l'ours pour ce qui concerne les Pyrénées. On ne peut pas cohabiter, et là-dessus, il n'y a pas que la FDO qui le dit, il y a des rapports parlementaires qui l'ont dit aussi en temps voulu, que ce soit sous un gouvernement Raffarin ou sous un gouvernement Jospin, de toutes tendances confondues, sans faire de politique, tout le monde l'a dit, au travers à la fois d'un rapport d'information et également au travers d'un rapport d'enquête, qu'il y a véritablement une incompatibilité entre le loup et le pastoralisme. Donc aujourd'hui, l'État français cherche à ménager la chèvre et le chou, mais globalement, c'est pas possible. Cette année, on vit une recrudescence d'attaques, notamment dans le Diois. On a une zone là, actuellement, qui est particulièrement touchée sur Jonchère-Bellegarde. Les éleveurs sont exaspérés, il y a du temps d'agents, de louvetiers, de la garderie qui est passé, il y a un gâchis d'argent public. Voilà, il faut savoir que le loup, au niveau de l'État français, c'est une douzaine de millions d'euros d'indemnisation, d'aides directes qui sont mis, sans compter tous les moyens administratifs qui sont mis dans les départements pour pouvoir remplir les dossiers, les instruire. Donc c'est un véritable gâchis. La protection dans le département de la Drôme, c'est plus d'un million d'euros. Quand je vois les soucis qu'il peut y avoir sur l'hôpital de Die ou sur nos petites classes uniques dans nos communes par rapport à nos écoles, il y aurait de quoi financer des instituts et des infirmières.
Vous avez parlé tout à l'heure qu'un des rôles essentiels du pastoralisme, c'était l'entretien des montagnes. Les estives permettent d'élaguer, etc. Est-ce que ce loup pourrait contribuer à faire en sorte que les moyennes montagnes retournent un petit peu à l'état sauvage ? S'il y a de moins en moins de transhumants et de bergers et de troupeaux, il y aura moins d'entretien et ces moyennes montagnes retourneraient à l'état sauvage ?
Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, donc comme l'a bien dit Jean-Louis, l'élevage ovin contribue à l'entretien des montagnes. D'ailleurs, pas que l'élevage ovin, le pastoralisme en général, les vaches tout autant. Du coup, la présence du loup a plusieurs conséquences, tout simplement la désertion de certaines estives de façon provoquée par les bergers et les éleveurs, ou tout simplement de façon fuie, on va dire ça comme ça, par certaines brebis qui refusent d'aller dans, enfin qui ont peur de retourner dans certains endroits. Et du coup, il n'y a plus d'entretien par les troupeaux de l'espace, et donc une fermeture de l'espace, et donc finalement une réduction de la biodiversité, puisque un espace fermé est donc un espace où la biodiversité est réduite par la colonisation de certaines espèces invasives qui peuvent être soit animales, soit végétales, bon, souvent végétales. Et du coup, finalement, on se retrouve avec une intervention humaine qui était le pastoralisme, qui permettait une multiplication des biotopes et des espaces divers, qui permet d'avoir un ensemble d'espèces animales et végétales, et du coup, la présence du loup referme ces milieux.
Et avec des impacts sur les départs d'incendie, puisque apparemment, vaut mieux un espace entretenu que des espaces en jachère. Et puis, même pour les touristes, quid d'un touriste néerlandais qui pourrait avoir peur de se trouver nez à nez avec un loup? Il y a des histoires qui viennent du Moyen-Âge avec des gens qui ont été croqués. Je ne sais pas s'il faut craindre de ce point de vue-là, mais peut-être pour le tourisme, c'est peut-être mauvais aussi, le loup. Enfin...
Oui, oui, Claire l'a dit, il y a un appauvrissement globalement des zones qui se referment. Donc c'est un appauvrissement en termes de biodiversité, donc ça, elle l'a précisé. Derrière, évidemment, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de touristes qui, en période estivale, viennent jusqu'à nous, promènent sur les alpages, sur les parcours de moyenne altitude, viennent sur les fermes. Le Diwa particulièrement est très fréquenté, enfin, ainsi que les Baronnies et le Vercors, hein, tout l'arrière-pays, toute la zone d'élevage. Les paysages que ces gens-là côtoient, sur lesquels ils circulent, ont été façonnés depuis des siècles par l'homme. Donc inévitablement, l'appauvrissement de ces zones-là par leur fermeture fera reculer, bien entendu, le tourisme sur ces zones-là, et évidemment contribuera à un appauvrissement global de la petite région que peut être le Diwa, le Vercors ou les Baronnies. Mais malgré tout, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore allé suffisamment loin dans la disparition de l'élevage pour que les décideurs, pour que la société mesure vraiment cela et intervienne. Donc... Après, par rapport au sujet que vous évoquez concernant le Moyen-Âge, je pense qu'il n'est pas besoin de remonter au Moyen-Âge. Hein, il suffit, concernant éventuellement des attaques sur l'homme, hein, puisque c'est ça que vous évoquiez à mot couvert dans votre question, il n'y a pas besoin de remonter au Moyen-Âge, il suffit d'aller un petit peu à côté, que ce soit dans les pays de l'Est ou que ce soit au Canada, en Amérique du Nord, où on a des témoignages tout à fait frais et récents sur des problèmes d'attaques sur l'homme. Donc, aujourd'hui, bien entendu, en Europe, on n'en a pas de connus et de reconnus, mais on a des témoignages aujourd'hui, notamment en Amérique du Nord, par rapport à des attaques sur l'homme. Donc, on peut penser qu'effectivement, demain, il ne faut pas dire que ça n'arrivera pas. Moi, pour moi, le loup n'est jamais que, quelque part, le cousin germain du chien que l'homme a domestiqué. On est parfaitement conscient du fait qu'un chien aujourd'hui est capable de mordre un homme. On a même des réglementations assez spécifiques par rapport à certaines races de chiens que l'on connaît agressifs. Donc voilà, je vois pas pourquoi le cousin germain, lui, épargnerait l'homme.
Si je peux juste rajouter un volet, parce que on aborde souvent les conséquences de la prédation sur les exploitations en tant que structure ou sur les troupeaux en tant qu'animaux. Mais c'est vrai que cette année, je tiens à noter qu'on a mené un travail avec la MSA au niveau de la FDO de la Drôme pour parler des conséquences sur l'éleveur, sa famille ou même les bergers, enfin, et aussi bien entendu les bergers. Les conséquences de la présence du loup et tous les problèmes psychosociaux que cela apporte. Et donc pour cela, je vous invite à aller consulter un film qui a été réalisé par la MSA Drôme-Ardèche-Loire, qui est largement diffusé et repris en France, mais également à l'étranger, puisqu'il a été traduit, et auquel le réalisateur, qui n'était pas du tout au fait de la prédation et qui l'a découvert le jour du tournage, a très bien rendu et a eu un prix. Et donc ce film qui s'appelle « Les éleveurs morsures invisibles » est consultable sur le site internet de la MSA Drôme-Ardèche-Loire. Mais également, si vous tapez le titre donc, du film, vous pouvez le trouver sur Dailymotion.
Je le mettrai en lien sur la page de l'émission. Alors, on va clore sur ce chapitre du loup sur lequel on pourrait gloser pendant des heures. Et vous aviez dit tout à l'heure que, en plus des missions de la FDO, il y avait un gros volet d'animation. On a parlé de la transhumance, on a parlé aussi, si j'ai bien compris, c'est le syndicat Ovindigo qui s'en occupe, mais Claire est mise à disposition pour organiser cette fête des chiens de berger. Vous êtes un peu la cheville ouvrière de la fête de la transhumance depuis un certain temps. Il y a eu cette édition qui a eu lieu il y a un petit mois. Est-ce que vous auriez envie de faire un bilan de cette édition ? Peut-être aussi rappeler la genèse, pourquoi la FDO est à ce point impliquée dans la transhumance ?
Eh bien, la FDO est impliquée naturellement dans la fête de la transhumance le fait que ce sont des troupeaux, avant tout, qui sont en transit entre des exploitations et des zones d'altitude. Donc, en l'occurrence, là, c'est le troupeau d'un groupement pastoral, avec notamment le troupeau de M. Francis Soldat, qui nous vient de la proximité de Manosque, et qui s'achemine jusque sur les hauts plateaux du Vercors, et qui donc passe par dit. Donc, c'est cette fête de la transhumance, donc, a lieu depuis de nombreuses années sur dit, a été mise en place et organisée par l'association DRAI à l'époque, qui était gérée par M. André Pitt, donc Adi. La FDO a toujours été plus ou moins associée à l'époque avec DRAI pour mener à bien cette fête de la transhumance, sachant que c'était André Pitt qui gérait l'ensemble de l'organisation et la FDO n'était qu'un petit modeste partenaire. Par contre, à la disparition d'André Pitt, il y a quelques années déjà, donc c'est la FDO qui a été sollicitée pour reprendre complètement l'organisation de cette fête, sachant que la ville de Die, le conseil général, étaient des partenaires qui souhaitaient vivement que la fête de la transhumance perdure, notamment par rapport à l'animation de la ville de Die, du territoire, et puis également par rapport à la communication qu'on peut avoir autour du métier d'éleveur ovin. Donc ce que la FDO a fait ces dernières années, a essayé de mener, c'est-à-dire chapeauter l'organisation de la fête de la transhumance à Die. Donc ça fait plusieurs années que l'on s'en occupe, que effectivement un bon nombre de partenaires sont avec nous pour amener à bien cette mission, et que l'on a donc réalisé cette année, encore une fois, cette fête de la transhumance sur Die, qui je pense s'est correctement déroulée, qui a amené énormément de monde. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a trois intervenants essentiels. Il y a donc l'Office de tourisme du DIWA, il y a l'ADEME, l'Association départementale d'économie montagnarde, qui est basée à Die, et il y a la FDO, qui font que cette fête de la transhumance puisse continuer. Bien entendu, l'accompagnement de la ville de Die et du Conseil général, notamment pour nos principaux partenaires, nous permettent de mener à bien cette mission. Il faut reconnaître que c'est une organisation qui est lourde. Claire pourra vous le dire, mais c'est du temps de travail. Et que tous les éleveurs ne mesurent pas non plus l'intérêt de continuer à communiquer sur notre métier. Donc tous les éleveurs ne se sentent pas forcément concernés par cette fête de la transhumance. Tout ça pour dire en clair qu'on manque cruellement de bénévoles pour mener à bien cette organisation qui est quand même relativement lourde puisqu'elle est sur 2 jours. Elle l'était sur 3 par le passé, mais on a été obligé d'abandonner la journée du vendredi faute de moyens humains. Et donc aujourd'hui, on se concentre sur la journée du samedi et du dimanche, samedi sur Die et dimanche au col du Rousset. Voilà, donc tout le volet communication est dévolu à l'Office de tourisme qui remplit bien sa mission puisqu'on draine énormément de monde qui viennent de Valence, de la Drôme, de la France entière, et qui chaque année se renouvellent, et qui chaque année viennent en très grand nombre voir le passage de ce troupeau d'Andy. On a l'ADEME donc, qui nous a aidé à mettre l'accent sur tout le volet pastoralisme, donc avec des présentations en termes de panneaux, de photos, d'expositions, de littérature, sur tout ce qui concerne le pastoralisme, donc avec ce que tous nos parents, grands-parents ont pu travailler sur le sujet et le résultat qu'on peut avoir aujourd'hui avec les paysages qui en découlent. Donc voilà, je pense qu'on a eu une fête assez complète, assez bien organisée, sans forcément se satisfaire de notre travail, mais qui est quand même lourde à mener, qui est compliquée et qui nous fait hésiter à repartir chaque année dans ce genre d'organisation. Donc voilà, moi c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on est persuadé à la Fédération départementale ovine du bienfait d'une telle organisation par rapport à notre métier, par rapport à la connaissance que nos concitoyens peuvent avoir du pastoralisme, mais que ça se fait pas tout seul et qu'il nous faut des éleveurs qui dégagent du temps, certes à une période délicate puisque c'est toujours le troisième week-end de juin, donc c'est une période de foin, c'est une période enfin de travaux. Mais bon, faut bien reconnaître que chez les éleveurs, des travaux, il y en a quasiment toute l'année. Donc voilà, il faut se donner les moyens de prendre un peu du temps à cette époque-là pour venir donner la main, venir participer, venir témoigner. Chacun à différents niveaux, hein. Il y a plein de missions et de rôles que l'on peut avoir ce jour-là. Voilà, et puis faut reconnaître que c'est une fête aujourd'hui où il y a énormément de touristes et il faudrait qu'on retrouve un petit peu une solution. Alors c'est ce qu'on avait à l'époque quand on occupait le vendredi avec les classes scolaires et avec une fête sur le Martouré le soir où on avait énormément de Diwas. C'est vrai que depuis qu'on se concentre sur la journée de samedi, on a moins de Diwas. Donc moi j'aimerais qu'à terme on puisse retrouver des éleveurs et des Diwas autour de la fête de la transhumance, puisque la fête de la transhumance évolue. Quand j'entends certaines personnes dire « on l'a déjà vu, c'est toujours pareil », eh bien c'est pas vrai. D'année en année, il y a des nouvelles choses, il y a des pièces de théâtre, il y a des films au Pestel, il y a toute la ville de Die, là qui se met en synergie autour de cette fête de la transhumance. Et il y a également pour les Diwas de nouvelles choses chaque année à découvrir. Donc moi j'invite pour les éditions futures, puisqu'a priori on repart pour organiser une prochaine fête de la transhumance, j'invite tous les Diwas à se mobiliser véritablement autour de cet événement. C'est un événement majeur pour la ville, pour la filière, pour la région. Donc voilà, moi j'attends nombreux les Diwas l'année prochaine, nombreux les éleveurs, pour faire en sorte qu'on ait une fête encore plus belle.
Alors, avis aux amateurs, venez donc aider la FDO et les autres organisateurs à faire en sorte que cette édition 2014 soit vraiment ancrée localement. Alors Claire, ça fait partie de tes missions. Quelle est la charge de travail? Combien as-tu dépensé d'énergie pour cette fête de la transhumance de cette année?
Alors, la fête de la transhumance, de par son grossissement d'année en année, nécessite effectivement d'y consacrer de plus en plus de temps, parce que Jean-Louis a énormément parlé de la fête le jour même, puisque c'est ce que les gens voient. Mais, par exemple, à 2014, nous sommes déjà en train de l'organiser, alors que ça fait à peine un mois que la 2013 est finie. Donc, c'est un travail qui est régulier sur l'ensemble de l'année et qui a dépassé, je pense, les attributions du bénévolat et donc nécessite l'emploi d'une personne. Bon, bien sûr, c'est pas un temps plein, mais on peut considérer... c'est très difficile à estimer parce que, bon, il faut jongler entre toutes les missions, mais mis bout à bout, que ça me prend 2 mois. Mis bout à bout, j'entends. Les petites réunions par-ci par-là, les coups de fil par-ci par-là, les courriers à faire, les gens à rencontrer, les gens avec qui il faut négocier, les réunions à faire à Die. C'est un travail qui nécessite beaucoup de coordination, puisque, comme l'a dit Jean-Louis, nous sommes pas seuls pour l'organiser. Et chacun peut amener sa pierre à l'édifice. Les commerçants de Die, enfin en tout cas les associations qui représentent, qui tentent de représenter les commerçants de Die, s'y attellent également. Donc chacun a sa mission. Et le rôle de la FDO est de venir coordonner tout ça, donner un coup de main quand il le faut, donner son avis, et puis gérer le budget déjà. Donc l'ensemble des décisions sur la fête qui sont prises néanmoins quand même collégialement, hein. C'est pas de la dictature. Donc voilà, ça prend 2 mois, j'entends, jour ouvrable bien sûr. Voilà. Également, ce que j'aurais souhaité rajouter par rapport à la fête de la transhumance, c'est que c'est une fête qui est donc pour un territoire, parce que donc, comme on l'a bien dit Jean-Louis, il y a 3 organismes qui représentent 3 objectifs qui sont valoriser le pastoralisme, valoriser les produits issus de ce pastoralisme, mais également valoriser un territoire. Donc oui, des éleveurs, bien entendu, il en faut, puisqu'on est là pour faire passer les messages sur le pastoralisme, mais j'invite l'ensemble des Diwas ou toute personne qui se sente concernée par leur territoire, par son développement économique et sa renommée, de s'intégrer dans la fête de la transhumance, parce que nous avons un certain nombre d'animations qui sont pastorales, mais qui ne sont pas seulement pastorales. C'est une fête, donc on a des animations qui sont festives. Et donc, chacun peut trouver chaussure à son pied. Voilà, s'il y a des gens qui sont plus intéressés par tout ce qui est restauration, ils peuvent venir donner un coup de main, ou s'ils ont des idées, des choses à organiser en termes artistiques, voilà. Donc ne nous limitons pas aux éleveurs, bien qu'ils soient à la base de cette fête et qu'ils sont essentiels, et que sans eux, on se résumerait à une fête festive avec comme titre la fête de la transhumance, mais finalement qu'il ne resterait qu'une excuse, et c'est pas du tout ce que la FDO ainsi que l'ADEME et l'Office de tourisme souhaitent.
Alors, pour ne pas sombrer dans une émission langue des bois, je vais aborder un sujet qui fâche un peu. Il paraîtrait qu'il y a un certain nombre d'éleveurs, puis vous l'avez dit vous-même, vous avez constaté une certaine désaffection des éleveurs et des bergers sur leur propre fête. Il y a certaines personnes qui auraient pu dire qu'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de bergers et d'éleveurs n'étaient pas présents, c'est qu'effectivement, la FDO aurait pu être connectée avec la FDSEA. Qu'est-ce que vous avez à en dire ?
Ouais, moi, j'ai rien de spécial à en dire. Moi, je suis pas polémique sur le sujet. Je constate simplement que la fédération départementale ovine est rattachée à la fédération nationale ovine, que c'est notre interlocuteur privilégié, qu'on a effectivement des relations de travail avec le syndicalisme à vocation générale dans notre département, ce qui est complètement naturel et tout à fait sain, puisque c'est aussi une des façons de faire avancer nos préoccupations, de résoudre nos problématiques, ou au moins de tenter de les résoudre. Donc par rapport à ça, effectivement, la FDO de la Drôme a des relations de travail avec la FDSEA de la Drôme, qui est le syndicat majoritaire reconnu et dernièrement reconnu aux élections Chambre d'agriculture, puisque la FDSEA représente aujourd'hui la majorité des agriculteurs de ce département. Donc très naturellement, par rapport à ça, eh bien, la FDO travaille de temps en temps avec la FDSEA. Et il n'y a pas de mal à ça. Donc après, tous les éleveurs sont les bienvenus à la Fédération départementale ovine de la Drôme. On tente de satisfaire aux préoccupations de tous, éleveurs, bergers, éleveurs ovins viande, éleveurs ovins lait, entre guillemets petits éleveurs, entre guillemets gros éleveurs, sachant que dans la Drôme, la limite entre le petit et le gros, je sais pas où aller, parce qu'on n'a quand même pas des gros troupeaux, on a plutôt un élevage modeste. Donc voilà, donc je pense que aujourd'hui, de toute façon, la fédération départementale ovine sur le département de la Drôme fait quand même l'unanimité. Évidemment, ne satisfait pas à tout le monde, hein. On essaye de faire au mieux, mais par rapport à ça, moi je ne suis pas trop inquiet. La raison fondamentale du fait que peu d'éleveurs ou que de moins en moins d'éleveurs sont présents à la fête de la transhumance, je la vois plutôt par rapport à la disponibilité de ces gens-là, au fait que les charges de travail d'année en année augmentent sur les exploitations pour pouvoir satisfaire à des exigences de chiffre d'affaires, de revenus. Les éleveurs ont tendance à en faire de plus en plus pour continuer à faire vivre leur famille. Donc, ont moins de temps à consacrer à des choses un petit peu annexes, telles que la fête de la transhumance. Voilà. Moi, je vois plutôt cette raison-là qui fait que les éleveurs sont pas forcément motivés pour venir à la fête de la transhumance. Et voilà, ils sont préoccupés par leur fonction de production et tout l'aspect communication et culture, tourisme, ben c'est des choses qui passent un petit peu après. Voilà, moi, le reste ne m'inquiète guère.
Très bien, ça a le mérite de la franchise. Tu as quelque chose à rajouter sur le sujet ? Pas plus que ça ?
Oh, si je peux rajouter qu'effectivement, en aucun cas, enfin, statutairement, la FDO est ouverte à tout le monde. Il faut que la FDO soit prise comme un lieu d'expression. Donc, comme tout syndicat, comme toute association, comme toute organisation, il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. Néanmoins, tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc, les avis, on est là pour en débattre. Il y a des gens différents, avec des opinions différentes, qui sont aujourd'hui dans la FDO et qui s'expriment. Alors, il n'y a pas de raison que ça freine. Voilà. Après, la fête de la transhumance, c'est vraiment un événement qui est là pour communiquer sur la filière, sans aucun syndicalisme que ce soit. On est là pour mettre en avant notre élevage, le produit de l'élevage, le pastoralisme. Et ça concerne tout le monde, quelles que soient leurs opinions. Voilà. Et la FDO, on est là pour travailler conjointement avec un ensemble d'organismes qui peuvent être associatifs ou syndicaux. local, quelles que soient les filières et quelles que soient les tendances et les opinions.
Très bien. Alors avant de vous lâcher, parce que vous allez avoir la gorge sèche très bientôt, je sais que la fête des chiens de berger a lieu une année sur deux, donc ce sera peut-être en 2014 qu'il y aura une fête des chiens de berger.
Alors c'est pas une fête des chiens de berger, mais un concours de chiens de berger auquel on essaye de faire une journée un peu festive, bien entendu. Mais c'est un concours, donc il y a des candidats qui viennent s'affronter, c'est pas une guerre, hein, mais qui viennent montrer leur capacité à conduire un troupeau grâce à un chien de berger. Et donc effectivement, elle a eu lieu, la dernière a eu lieu en 2011. Le syndicat Yauvin du Diwa doit se réunir pour valider ou non l'organisation en 2013 d'un concours de chiens de berger. Donc pour l'instant, il est encore un peu tôt. On va laisser passer la saison estivale et les travaux d'été pour après réunir nos compatriotes Diwa, Oliver Yauvin du Diwa, et statuer sur ce sujet.
Sachant qu'il y a une toute petite erreur de la part de Claire, la dernière a eu lieu en 2012. Qu'il n'y en a point eu en 2013 et qui risque d'y en avoir une en 2014.
Voilà. Qu'il risque avec une forte présomption, j'espère.
Oui, oui, ben, la simple raison qui a fait que 2013 n'a pas pu se mettre en œuvre, c'est la faute de moyens humains pour organiser et satisfaire à l'organisation de la journée. C'est les éleveurs en réunion du syndicat Yauvin du Diwa qui l'ont décidé ainsi. Voilà, ils ont décidé ainsi de faire un break. Il y en avait eu une vingtaine qui avait été organisée consécutivement tous les ans. Il faut bien reconnaître que les bénévoles et les bonnes volontés pour mener à bien la gestion d'une buvette, d'un repas, d'un concours, ces moyens humains sont modestes, donc les gens se lassent. Par contre, on ne perd pas espoir qu'en 2014, compte tenu de l'absence de 2013, un regain d'intérêt se fasse sentir pour mener à bien ce genre de journée.
Donc encore une fois, avis aux amateurs, venez donc aider les organisateurs de ce genre d'événement. Et d'ailleurs, comment ferait-il ? Se mettrait-il en contact avec vous et auriez-vous des coordonnées à fournir ?
Oui, alors ils peuvent me contacter sur le portable, c'est le plus simple parce que je suis souvent en déplacement, au 06 75 31 96 68 ou tout simplement m'envoyer un mail à fdo.drome@gmail.com. Voilà.
Et ça, donc vous les accueilleriez avec les bras ouverts et vous leur affecteriez des missions adaptées à leurs compétences et leurs envies.
Bien entendu.
Très bien, bah je crois qu'on a fait le tour du sujet. Jean-Louis Mancipe et Claire Chulon, merci d'être passés à la radio. En espérant que cette édition 2014 de la Transhumance soit encore un plus franc succès. Merci à vous deux et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.